Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les grandes entreprises de services du numérique et le logiciel libre. C'est le sujet principal de l'émission du jour avec les exemples d'Atos et de Soprasteria. Avec également au programme la chronique d'Isabelle Avani sur les journées du logiciel libre de Lyon qui se dérouleront ce week-end, les 2 et 3 avril 2022. Et également la chronique de Luc en fin d'émission sur la reconnaissance faciale. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 29 mars 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Derrière mon micro, je suis Frédéric Couchet, délégué général de l'April. Derrière la vitre, avec ses doigts agiles, il égalise les volumes, il active les micros, il balance les sons. Et si cette émission est agréable à l'écoute, c'est grâce à lui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique Le Libre fait ça comme de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April et qui est en face de moi dans le studio. Le thème du jour, les journées du logiciel libre de Lyon, qui se tiennent les 2 et 3 avril 2022. Je te laisse la parole Isabella.
Merci Fred, bonjour à nos auditrices et auditeurs. Donc les journées du logiciel libre de Lyon, événement annuel majeur autour des libertés informatiques en France, reviennent le week-end des 2 et 3 avril, le week-end prochain. Et c'est une très très belle nouvelle après deux éditions annulées pour cause de Covid. Nous allons vous présenter plus en détail cet événement et notamment l'édition de cette année avec notre invité Stéphane Parounakian, qui est membre du comité d'organisation des journées du logiciel libre. Stéphane intervient normalement à distance via l'outil d'audioconférence libre Mumble. On va vérifier de suite qu'il est bien avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Isabella.
Je t'entends très bien, bonjour. Les libristes, c'est une bonne nouvelle, les libristes connaissent très bien les journées du logiciel libre, autrement appelées JDLL, avec leur acronyme, mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui nous écoutent. Donc Stéphane, pourrais-tu s'il te plaît présenter les journées du logiciel libre de Lyon ?
Oui, bien sûr. Eh ben, c'est un événement qui dure sur un week-end, donc là en l'occurrence donc le week-end prochain, qui se passe dans une MJC et qui a pour but de proposer un certain nombre de conférences, d'ateliers, de stands autour du logiciel libre, avec des interventions qui sont destinées soit au grand public, soit à des personnes plus techniques. Donc il y en a à peu près pour tout le monde. Et donc c'est un événement qui existe depuis une vingtaine d'années et qui réunit plus de 1000 visiteurs chaque année.
Je disais tout au début que deux éditions des journées du logiciel libre ont dû être annulées pour cause d'épidémie de Covid, donc en 2020 et en 2021. Ça a dû être très dur à vivre, j'imagine, pour l'équipe d'organisation, d'autant plus que la plupart des personnes qui organisent cet événement le font à titre bénévole, c'est important de le préciser. Stéphane, qu'est-ce que ça fait de pouvoir annoncer qu'une édition aura finalement lieu ?
Eh bien, ça fait très plaisir parce qu'effectivement, les éditions 2020 et 2021 n'ont pas eu lieu. Alors qu'on les avait quasiment terminés. Le premier confinement a eu lieu 15 jours avant la date des JDLL 2020, donc beaucoup de travail jeté à la poubelle. Et en plus, on a des gens qui nous ont rejoints fin 2019 dans l'organisation, et effectivement, qui est composé essentiellement de bénévoles. Et donc, on a des personnes qui travaillent sur... c'est la troisième édition sur laquelle ils travaillent, et ils n'ont pas encore eu l'occasion de voir leur travail se concrétiser.
Mais ces personnes-là ne se sont pas découragées. C'est-à-dire qu'elles sont restées pendant toutes ces éditions.
Oui, c'est sûr que c'était. Il a fallu un peu de courage pour ça et un peu de folie parce que on s'est lancé pour la troisième étude en se demandant si on allait aboutir à quelque chose et on est quand même content que ça aboutisse à quelque chose.
Depuis plusieurs années, les JDLL, les Journées de Logiciel Libre, ont lieu à la Maison pour tous. Tu l'as rappelé, Maison pour tous, salle des Rancis à Lyon. Il s'agit d'une MJC, donc Maison des Jeunes de la Culture. De ce fait, elle cible particulièrement les jeunes, mais elle est bien sûr ouverte à tout le monde. Ce qui a son importance pour un événement comme celui des journées du logiciel libre, n'est-ce pas Stéphane ?
Oui, Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a plus de 10 ans, effectivement, c'était sur un campus universitaire, les JDLL, et ça permet pas du tout de toucher le même public, parce que là, on était sur justement un événement qui était plus à destination de personnes qui baignent déjà dans l'informatique et dans le logiciel libre. Et là, le fait d'être dans une MJC, ça permet de toucher un public beaucoup plus vaste et d'avoir une programmation, enfin un programme qui est beaucoup plus varié et qui permet de toucher aussi bien les personnes férues d'informatique comme des personnes qui viennent en famille, puisqu'il y a aussi même des activités pour les enfants, pour permettre aux enfants de jouer à des jeux vidéo libres ou de tester des logiciels libres et de commencer à s'initier à l'informatique justement avec du logiciel libre.
C'était en effet ma prochaine question. Qu'est-ce qu'on trouve aux journées du logiciel libre cette année pour tout nous dévoiler le programme? Donc, tu l'as déjà un petit peu anticipé. Il y aura des activités ludiques pour les enfants, ce qui fait des journées du logiciel libre un événement adapté pour toute la famille, hein, finalement. Et quoi d'autre?
Alors, on a des conférences, on a pas mal de conférences, une soixantaine de conférences autour de pas mal de sujets, donc ce serait impossible de tout lister, mais globalement le programme exhaustif il se trouve sur le site des JDLL. Si je me trompe pas, l'April est présente à travers plusieurs interventions.
Je confirme. On le dira plus précisément dans les annonces finales de l'émission.
Parfait. Mais on a après des associations qui viennent présenter des projets qu'ils ont. On a par exemple aussi la métropole de Lyon qui vient présenter toute leur démarche autour de l'open data et de l'open source. On a un documentaire qui va être projeté qui s'appelle LOL, une affaire sérieuse, qui a pour objectif de présenter les enjeux du logiciel libre mais au grand public. On a des interventions autour de l'écologie, on a des sujets beaucoup plus techniques, enfin bref, il y a beaucoup de choses. On a des ateliers aussi pour permettre aux visiteurs de pratiquer avec les intervenants, donc devant des ordinateurs. On a des choses pareilles qui sont très techniques et des choses qui le sont un peu moins. Il y a de l'initiation à la programmation par exemple. Et enfin, on trouve beaucoup de stands. On a la chance d'avoir à disposition un gymnase dans lequel on a une quarantaine de structures qui viennent présenter leurs projets, que ce soit des associations, des entreprises, et donc avec qui il est possible d'échanger tout au long du week-end, puisqu'ils seront là tout le week-end.
Donc des conférences et ateliers pour tous les goûts, hein, plus techniques, plus grand public. Il y aura aussi une install party, n'est-ce pas? Est-ce que,
oui.
Est-ce que tu... Je te laisse expliquer ce que c'est. Une install party à
oui,
notre public.
Bien sûr. On aura une salle dédiée à l'install party. Donc le principe de l'install party, c'est pendant tout le week-end, les visiteurs peuvent venir avec leur ordinateur et on a des bénévoles qui vont pouvoir les accompagner pour passer sur du logiciel libre, pour voir s'il y a des logiciels qu'ils utilisent au quotidien qui ne sont pas libres, peuvent être remplacés par des logiciels libres. Et donc l'objectif, c'est de les accompagner là-dedans et qu'ils puissent avoir un moment d'échange avec des bénévoles qui ont des compétences sur le sujet et qu'ils puissent ensuite repartir avec l'ordinateur avec moins de logiciels propriétaires et avec plus de logiciels libres. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que généralement, on a des interventions de ce genre, enfin, il y a des interventions de ce genre toute l'année à la Maison pour tous, ce qui permet aussi d'assurer le suivi des personnes qui sont venues au JDLL pour basculer dans le monde du libre et qui ne se retrouvent pas abandonnées pendant un an jusqu'au prochain JDLL, ou pendant 3 ans en l'occurrence, comme on l'a pu le voir ces dernières années.
C'est important de le dire, donc il y a un lien très fort entre la Maison pour tous, Alderancy et le logiciel libre. Il y a vraiment une programmation très riche pendant toute l'année. Avez-vous prévu la possibilité d'assister aux conférences à distance? Je pose la question parce que l'épidémie, hélas, c'est pas sûr que ce soit vraiment à la fin. Et donc je me demandais s'il y a éventuellement des possibilités de participer de quelque façon aussi à distance.
Alors, nous, pour les JDL, malgré le contexte, on privilégie le présentiel parce qu'on a essayé l'année dernière de faire une édition en ligne et on se rend compte qu'on n'est pas bon pour ça. Mais en tout cas, il y aura une partie des conférences qui seront diffusées en direct sur Internet. Les informations, elles seront mises sur le site des JDLL.
On va d'ailleurs le dire tout de suite, c'est très simple, jdll.org.
Ouais. Merci. Et il y aura en tout cas la quasi-totalité des interventions pourront être retrouvées après l'événement en ligne une fois qu'elles auront pu être montées, puisque quasiment toutes les interventions seront filmées.
D'accord,
en tout
donc
cas,
il y a une
quasiment
captation.
toutes les conférences. Il y a une captation de toutes les conférences. Parce qu'il y a des ateliers et des ateliers pour enfants, ça, c'est pas le cas parce que ça présente pas d'intérêt. Mais en tout cas, les conférences sont quasiment toutes filmées.
60 conférences, hein, je vous laisse imaginer. Ouais. Le travail est énorme pour ce qui est de la logistique, hein, trouver les intervenants. Je sais qu'il y a un remboursement de frais pour nombreux d'entre eux et d'entre elles. Et d'ailleurs, c'est important de dire aussi que voilà, les JDL, c'est le fruit d'un travail majoritairement bénévole, que l'événement est gratuit. Comment le financez-vous? Il est encore temps de contribuer.
Oui, alors.
il y a la moyen de vous aider.
Oui, on le finance de trois manières différentes. On a des associations qui aident à l'organisation, qui participent au budget. On a des sponsors qui sponsorisent l'événement. On a d'ailleurs, merci à eux, la liste complète est sur le site des JDLL. Et enfin, on a une campagne de financement participatif qui est accessible. Là encore, depuis le site des JDLL, où tout le monde peut contribuer et peut même, en contrepartie, avoir quelques goodies.
Et je crois qu'il y a une date limite pour faire un don. C'est bien de le dire, comme ça, les personnes se précipitent pour
Je
ne
l'ai plus en tête, mais ça doit coïncider. Là, ça doit être cette semaine ou la semaine prochaine.
D'accord. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour des questions les plus importantes, au moins. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, peut-être, Stéphane, auquel on n'aurait pas pensé?
Oui, moi j'ai un petit détail, c'est que justement effectivement c'est fait essentiellement par des bénévoles et on est toujours à la recherche de bénévoles. Donc s'il y a des personnes qui ont envie de s'engager pour organiser l'édition 2023 des JDLL, on aura l'occasion de communiquer autour de ça en septembre-octobre et donc vous êtes les bienvenus dans l'organisation. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site pour avoir plus d'informations quand on commencera l'organisation de cette édition.
Mais pour l'instant, sachez que voilà, il y a l'édition de cette année. Donc
ah oui.
On répète les dates, le 2-3 avril à Lyon, la Maison pour tous Salle des Rancy. Vous trouvez tout le programme sur jll.org. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous et bonne JDLL.
Merci Isabella.
Eh bien, écoutez, merci Isabella et Stéphane Parunakian, donc de l'organisation des Journées du Logiciel Libre de Lyon, donc jdll.org, qui auront lieu donc à Lyon les 2 et 3 avril 2022 et pour certaines conférences de diffusion en direct et ensuite les vidéos seront disponibles. Bah, écoute, merci Isa. Nous allons faire une pause musicale. Alors après la pause musicale, nous parlerons des grandes entreprises de services du numérique et le logiciel libre. Lors des journées du logiciel de Lyon dont on vient de parler, il y aura samedi 2 avril à 17h un concert de Captain. Alors Captain, c'est le nom d'artiste de l'informaticien libriste Clément Oudot. Nous avons déjà diffusé des titres de Captain. Je vous renvoie aussi à l'émission 96 pour une interview avec lui, donc sur le site libreavoue.org/96. En attendant, nous allons écouter le Musée d'Art Contemporain par Captain. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
C'était l'hiver, le jour de la sortie scolaire, au musée d'art contemporain. La lutte des classes pour les professeurs qui menacent les gamins qui ne contemplent rien. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des armes dans des frigos. Et puis moi je trouvais ça beau. Un guide austère nous dépeignait l'histoire de l'air, la période bleue, la période noire. Comme si la planète était une grande palette, avec le trou de la couche de jaune. On voyait dans les petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos. Et puis moi je trouvais ça chouette. Avant, il y avait avait de l'air, il y avait du vent, de la verdure dans les prairies. Oui, mais maintenant la terre, le ciel, les océans, ils sont tout froids, ils sont tout gris. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau. Fin de la visite, on se dirige vers la boutique du musée d'air contemporain. Bouteilles d'eau claire, sachets de terre et bonbonnes d'air, fruits et légumes en parfum. Voyez dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau.
Nous venons d'écouter Le Musée d'Air Contemporain par Captain, disponible sous licence libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les grandes entreprises de services du numérique et les logiciels libres. Nos invités du jour, Gilles Lehoux, responsable de l'entité Open Source d'Atos. Bonjour Gilles.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Et François Bessaguet, directeur technique groupe de Sopra Steria. Bonjour François.
Bonjour Frédéric.
Alors, notre sujet du jour va être un peu en gros découpé en deux grandes parties. On va un peu d'abord commencer à parler en général des entreprises de services du numérique pour que les gens qui nous écoutent découvrent un petit peu ce que c'est et peut-être les spécificités des grandes entreprises, parce que vous représentez dans le top 5, hein, peut-être que vous donnerez les détails après, des entreprises en tout cas en France. J'invite évidemment les personnes qui nous écoutent à nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fr. FM bouton chat ou sur le site libreavoue.org. Alors première question, déjà une présentation personnelle rapide de chacun de vous. On va commencer par François Bessaguet.
Ouais, donc François Bessaguet, je suis donc directeur technique groupe depuis déjà 2015 hein, sur Sopra Steria. Et donc j'ai travaillé pas mal sur des projets d'export en Asie notamment. Et puis depuis effectivement 2015, suite parce que la société s'est transformée en 2015, et même depuis 2008 en remontant un petit peu, donc je pilote cette direction technique à la fois sur la France et sur le groupe. Hein. Et j'encadre les architectes, je sécurise aussi la production, hein, parce que les grandes entreprises comme les nôtres ont des responsabilités vis-à-vis des grands comptes pour lesquels nous travaillons. Et puis aussi effectivement vis-à-vis de l'open source pour pousser toutes ces notions-là et puis pousser ces produits chez nos clients en fonction. Hein, qui sont plus ou moins addicts à ce genre de à ces technologies, et puis pour leur montrer effectivement qu'on fait de très très bonnes choses avec du logiciel libre.
Alors ça on entrera en détail tout à l'heure. Gilles Lehoux.
Oui, merci Frédéric. Donc moi-même je suis en charge de l'entité Open Source d'Atos comme tu l'as précisé. J'assure le pilotage de cette entité depuis 4 ans maintenant. Précédemment, j'étais dans des activités autour de la direction des projets, des architectures, mais j'ai toujours été en très proche, en étroitesse collaboration avec le monde de l'open source, hein, puisque j'ai rejoint Atos en 2015, qui lui-même avait racheté l'entreprise dans laquelle j'étais depuis 2006, qui était Bulle, et qui avait comme slogan « Architecte d'un monde ouvert », hein, donc qui était une des premières grandes ESN qui était impliquée fortement dans l'écosystème open source. Voilà.
D'accord. Alors, on va faire la première partie. Je suppose que les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas forcément le terme d'entreprise de service du numérique, ESN. Peut-être que les plus anciens ont entendu parler du terme ou se rappellent du terme SS2I, Société de Services en Ingénierie Informatique. Donc, j'ai envie de vous poser une première question toute simple. C'est quoi une ESN, une entreprise de service du numérique ? François Bessaguet.
Ah bah, une entreprise de services du numérique, c'est une entreprise qui va offrir des services du numérique, hein, comme son nom l'indique. Et en fait, plus que ça, c'est de la transformation digitale, hein, puisqu'effectivement, on s'aperçoit que le monde bouge, le monde est de plus en plus autour des téléphones, autour de l'interaction, on va dire, dynamique, hein, avec les différents services qui peuvent être offerts par les grands groupes que nous servons. Donc ce qu'on apporte effectivement à nos clients, c'est cette transformation digitale, c'est-à-dire de basculer du monde d'hier, entre guillemets, vers les services de demain, où par exemple, ça peut être des banques, ça peut être de l'aéroportuaire, ça peut être du transport, d'avoir l'information immédiatement, remise à jour en temps réel, et leur apporter les services toujours plus facilement, de façon toujours plus fluide, et puis bah, avec les technologies du moment, quoi.
D'accord. Donc c'est des prestations de services très larges, très variées.
Tout à fait.
Gilles Lehoud d'Atos.
Oui, oui. Bah
c'est quoi la typologie de ces prestations de services?
Ça couvre toutes les parties de l'informatique. Hein. Donc ça va du conseil, hein, où on va aider notre client à trouver la meilleure solution par rapport à ses problématiques. Hein. Donc on peut avoir différents types de clients, des clients qui sont très matures, où ils ont une idée déjà très précise de ce qu'ils veulent, ou des clients qui sont vraiment dans la découverte complète. Et là, on va les accompagner pour les aider en recueillant leurs besoins, en comprenant leurs problématiques, les accompagner dans les meilleures solutions. Après cette phase de conseil, on va avoir des phases de réalisation, hein, de définition, donc des phases de définition au préalable, qui peuvent être accompagnées, précédées de notions de ce qu'on appelle maintenant des POC, des Proof of Concept, c'est-à-dire des phases dans lesquelles on va expérimenter des technologies pour vérifier avec le client si cette technologie est bien adaptée au contexte, à son contexte. Et ça lui permet aussi de pouvoir évaluer différentes solutions entre elles, permettre aux équipes de pouvoir manipuler, de pouvoir voir concrètement la solution avant de la généraliser. Et une fois ces phases de concept terminées, qui durent en général à peu près 3 mois, on passe dans des phases de ce qu'on appelle build, donc on parle beaucoup, on a beaucoup de termes anglo-saxons, hein, de oui. construction, dans lequel on va réaliser la prestation de projet, la délivrer, c'est-à-dire la mettre en service, puis après l'exploiter et assurer son support. Et donc les entreprises de services numériques vont accompagner les clients dans l'ensemble de ces activités, du conseil à la construction d'une solution, à son management, c'est-à-dire l'exploitation de cette solution, à son support. Voilà.
Et avec un aspect, je suppose, François Bessaguet, de formation aussi des personnes qui vont l'utiliser.
Oui, tout à fait. Il y a tout cet aspect formation, suivi, ce qu'on appelle aussi, effectivement, comme dit Gilles, on a beaucoup de termes anglo-saxons, le change management, c'est-à-dire à partir du moment où on va aller sur numérique, c'est la gestion du changement, c'est-à-dire apprendre le client, mais aussi toutes les personnes qui travaillent pour lui, de basculer vers ce nouveau monde, d'avoir ces nouveaux outils, et puis de ne pas être complètement perdu. Et ça se négocie, effectivement. Effectivement, il y a du conseil autour de tout ça pour pouvoir amener tous les utilisateurs, les futurs utilisateurs de ces systèmes-là à pouvoir les utiliser de façon optimum et surtout à les prendre en main. Hein.
D'accord. Alors, une entreprise de service du numérique, ça peut être une petite entreprise où ils sont, ou même voir une entreprise où il y a une personne ou quelques personnes. Vous, votre spécificité aujourd'hui, c'est-à-dire le sujet un petit peu qu'on aborde, c'est les grandes entreprises du service du numérique. Alors pour que les gens, avant qu'on rentre dans le détail, notamment les clients que vous avez, pour que les gens imaginent un petit peu ce que c'est, est-ce qu'en quelques chiffres chacun, vous pourriez nous présenter à la fois en termes de chiffres d'affaires, de personnes intervenantes, Soprasteria et Atos. François Bessaguet pour Soprasteria.
Ben, en termes de... On est aux entours de 50 000, hein, répartis sur une trentaine de pays. On a un chiffre d'affaires qui tourne autour de 2 milliards, si je me souviens bien. Donc c'est des chiffres conséquents. Et on a que des grands comptes en termes de clients.
Est-ce que tu peux définir ce qu'est un grand compte?
Alors un grand compte, c'est une grosse entreprise, ça peut être Airbus, ça peut être BNP Paribas, ça peut être SNCF, RATP, EDF, les grands ministères, ça peut être Auchan, ça peut être Carrefour.
D'accord.
Donc on a tout le panel et effectivement on adresse en termes de domaine métier quasiment toute la panoplie qui peut exister et qu'on peut voir tous les jours quand on interagit avec ces grandes sociétés qui effectivement ont un nombre de personnel important, hein, et d'accord. qui apportent du service à tout le monde.
D'accord. Et Atos en chiffres?
Atos en chiffres, c'est 110 000 personnes dans 73 pays, c'est 11 milliards de chiffre d'affaires, c'est 12 000 employés en France. Hein. Et la spécificité au Tesato, c'est qu'il y a une très forte capillarité en France. Hein. Donc on a des
présences, on a des
entités partout en France, hein, donc à Bordeaux, Lille, Lyon.
C'est l'historique Bulls, je suppose. Ça.
Entre autres. Hein, mais effectivement, il y a eu plusieurs acquisitions dans la vie du groupe Atos. Hein, cette implantation, elle reflète aussi la diversité de ces acquisitions. Et ce qui nous permet justement d'avoir une force aussi, c'est de la proximité vis-à-vis de nos clients, parce qu'ils ne sont pas évidemment qu'à Paris. Quoi.
D'accord. Et donc, François parlait des grands comptes. Est-ce qu'il y a une taille minimale de clients ? C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, vous allez, par exemple, répondre à des besoins d'une TPE, d'une PME ? À partir de quelle taille, finalement, Sopra Steria ou Atos répond est-ce qu'il y a une typologie minimale de clients ?
On va dire qu'effectivement, il y a une typologie minimum de clients. Après, savoir comment est-ce qu'on peut la tailler, c'est un peu difficile. Mais effectivement, le problème aussi, c'est qu'on est sur des opérations qui sont quand même en général relativement volumineuses. Donc les TPE ne vont pas avoir accès à ce type d'opérations. Elles ne vont pas les demander parce qu'effectivement, c'est pas leur marché. Et après, effectivement, on est vraiment, quand on parle d'un Airbus, d'un SNCF, d'un RATP, c'est ce genre de niveau d'entreprise dont on parle.
D'accord. Même chose côté Atos ?
Oui, c'est en adéquation aussi au chiffre d'affaires du client, pas au sens de son chiffre d'affaires structurel, mais par rapport au business avec lequel qu'il recherche. Hein, donc nous, on fournit des projets de dimension industrielle avec une grande exigence de qualité de service, d'engagement, et souvent on parle de projets de plusieurs millions d'euros. Hein, et c'est sur ce type de projet qu'on va qualifier un peu les grands comptes, puisque c'est eux qui vont être en capacité d'avoir des demandes de ce type-là. Quoi.
D'accord. Alors, au niveau fonctionnement économique, vous avez. Donc, c'est de la prestation de services principalement. Ma question, c'est quoi les modèles économiques des grandes SS2I ? Alors, déjà, Gilles Lehoux de
Bulle. Tu en as plusieurs.
D'Atos.
Hein. Ouais, pardon. Tu en as plusieurs. Hein. Tu as. Le principe même des grandes ESN, c'est de fournir la plupart du temps des projets au forfait. Hein, donc ça, c'est un des grands modèles.
Alors, c'est quoi le
projet au forfait, c'est un projet dans lequel on définit un tarif pour réaliser le projet avec le client dans les phases d'avant-vente, hein, de définition d'offres. Et à partir de là, l'entreprise est engagée à délivrer ce projet, peu importe le coût réel de la solution.
D'accord.
Donc on prend des engagements de délai et pour un montant défini, et ces charges à notre entreprise de délivrer dans les meilleurs dans les délais convenus les projets. Donc ça, c'est un type de projet, et c'est surtout sur ce type de projet-là qu'on va retrouver les grandes ESN comme nous, parce que prendre des engagements comme ça sur des projets de plusieurs millions d'euros, etc., il faut déjà être en capacité de les mener à leur bien, d'avoir la qualité de service et d'être capable de réaliser ces types de prestations, donc, et avoir la dimension pour réaliser ces prestations. Donc ça, c'est un type. Tu as l'autre type de prestations qui est ce qu'on appelle l'assistance technique. Donc là, on va plutôt être en accompagnement des clients en proximité, c'est-à-dire on va mettre des collaborateurs.
C'est la sous-traitance, quelque part.
C'est ce qu'on appelle un peu de la sous-traitance. Alors, tu as deux modèles. Tu as ce qu'on appelle les centres de service. Donc les centres de service, tu as des équipes qui vont être soit sur les sites du client, soit sur les sites de Atos, soit réparties, qui sont dans lesquels on va, comme son nom l'a dit, rendre un service, qui sont pilotés par Atos et qui sont pour réaliser des prestations. La sous-traitance, c'est plus un mode de management qui est piloté par le client, où il va le collaborateur va être intégré dans les équipes du client pour réaliser un service donné. Après, tu as d'autres types de services. Par exemple, Atos a la particularité d'être un des seuls encore constructeurs d'informatique en France. Hein. Donc, on est premier en Europe sur les supercalculateurs.
Et donc, c'est de l'historique Bulle, en fait.
Ça, c'est de l'historique Bulle, ouais, tout à fait. Donc, c'est vraiment un savoir-faire très fort qu'on a là-dessus. Et on fait ce qu'on appelle des services managés. Donc, on fait de l'hébergement pour des clients. Donc, les applications sont hébergées dans les centres d'hébergement de Atos. Et c'est les équipes d'Atos qui vont assurer l'exploitation de ces plateformes. Et donc, ça, c'est aussi un autre type de prestation.
Et donc, Sopra Steria, est-ce que c'est le même modèle économique, peut-être pas la partie matérielle.
C'est en gros le même modèle, effectivement. On va du consulting jusqu'à l'exploitation, hein, avec, comme disait Gilles, la partie ce qu'on appelle service manager, la partie build, la partie aussi, projet au forfait, hein, qui est très important parce que c'est quand même très, très emblématique de ce type de société, parce qu'effectivement, pour les réaliser, il faut quand même avoir les reins solides, parce qu'effectivement, on peut gagner effectivement beaucoup, mais on peut perdre aussi beaucoup. Hein. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on appelle portfolio management, c'est-à-dire la gestion des logiciels des entreprises.
D'accord.
Vous prenez n'importe quelle grandes entreprises dont on parlait, ils ont des centaines, voire 1000, 2000 logiciels qui tournent pour différentes fonctions dans l'entreprise, et ils ont besoin de quelqu'un pour venir, pour maintenir ces logiciels de façon à ce qu'ils soient opérationnels quand ils en ont besoin, et très souvent 24-24 en fonction des clients, mais aussi pour les faire évoluer, pour les faire avancer, pour pas les garder dans l'état où ils sont, et pour les faire avancer dans la transformation du numérique. Et ça, c'est un des modèles dans lequel Soprasteria est pas mal engagé aussi, que ça soit pour les pousser vers le cloud, puisque là il y a des grandes transformations en ce moment, donc le cloud, la transformation numérique, c'est vraiment les choses vers lesquelles on arrive en termes de conseils, en termes de build et en termes de maintenance et d'exploitation pour pousser nos clients et pour les aider à aller plus loin sur ce chemin-là, quoi.
D'accord. Alors, Étienne regarde sur le salon web. C'est bon. Visiblement, on a un petit problème en FM, mais c'est pas. On va continuer. Hein. Tu parlais de logiciels, François. Ce sont des logiciels internes aux entreprises, c'est ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Alors, j'ai une question. Est-ce que les sociétés, donc comme Soprasteria et Atos, ont aussi un modèle de développement d'édition de logiciels? Ou est-ce que finalement vous partez de logiciels qui existent et que vous adaptez éventuellement, que vous customisez? Est-ce qu'il y a une activité d'édition en tant que...
Là, il y a une spécificité, effectivement, chez Soprasteria, c'est qu'on est aussi éditeur de logiciels pour la banque, mais aussi pour tout ce qui est immobilier et tout ce qui est ressources humaines. Effectivement, on édite des logiciels, des gros logiciels sur ces trois domaines. C'est une partie spécifique de Soprasteria qui est à côté de l'ESN, entre guillemets. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment une des spécificités de Soprasteria, on va dire.
Ok, et côté Atos, est-ce que vous avez ça aussi?
Pour François, on a aussi des spécificités au sein d'Atos, comme tu l'as dit, c'est aussi l'historique de la vie de Atos, hein. Donc on a une division chez Atos qui est spécialisée autour de la sécurité, hein. Et donc justement on a toute une gamme de produits qu'on a développé, qu'on a créé et qu'on commercialise sous la marque Atos. Et comme je disais précédemment aussi, il y a tous les super calculateurs, toute la partie informatique qu'on délivre. Au terme applicatif, on a aussi quelques applications, mais c'est on est plus reconnu sur la partie sécurité avec nos offres de sécurité ou de HPC, évidemment.
D'accord.
Okay. Alors après, le gros quand même de l'activité sur les logiciels, hein, c'est ce qu'on appelle le métier d'intégrateur, parce qu'une ESN, c'est un intégrateur.
Donc,
un intégrateur, comme son nom l'indique, on va intégrer des composants techniques entre eux, hein, c'est-à-dire on va prendre des briques logicielles pour en constituer un produit. Donc c'est là où il va y avoir toute la compétence de nos architectes, de nos experts, de nos solution managers, donc des gens qui vont, lors de la phase d'avant-vente, hein, donc on cadre le besoin du client, etc., on va construire une solution, et pour ça on va choisir les meilleurs composants techniques pour répondre aux besoins de ce client. Et ces composants-là, évidemment, ils nécessitent des adaptations, ils nécessitent d'être interconnectés entre eux, et puis l'application, une fois qu'elle est conçue, il faut aussi qu'elle s'intègre dans le SI de notre client. Le système d'information de notre client, et pour ça, là aussi, il faut arriver à connecter cette application dans le système d'information du client, et c'est là où l'intégrateur apporte toute sa valeur ajoutée, hein, c'est dans la constitution de l'application, dans son paramétrage, dans sa configuration, mais et également dans son intégration, donc dans son plugage, si on veut dire, hein, dans son interconnexion avec le SI, le système d'information de nos clients.
D'accord. Donc François, là, Gilles vient d'évoquer plusieurs finalement métiers au sein d'une ESN. Mm-hmm. Alors, autant je pense que les gens connaissent un peu le métier de développement logiciel, mais il a employé le mot architecte. C'est quoi un architecte dans un système d'information?
En fait, vous allez avoir énormément de composants. Gilles parlait d'intégration. Effectivement, on va arriver déjà des systèmes qui fonctionnent tout seuls. Maintenant, ça n'existe plus. Les systèmes sont forcément interconnectés avec des systèmes existants et avec l'extérieur. Donc forcément, il va falloir un moment, en fonction du domaine métier du client, architecturer, c'est-à-dire prendre les bons composants et les les mettre au bon endroit. Et ça, c'est le rôle de l'architecte. Et on s'aperçoit qu'en fait, par exemple, en fonction d'une banque, d'un transport, ou de l'énergie, ou d'un style, par exemple, comme Carrefour ou Auchan, les systèmes sont différents parce qu'on n'attend pas les mêmes choses de ces systèmes d'information. On n'attend pas la même réactivité, on n'attend pas les mêmes volumes. Les contraintes sont complètement différentes. Et c'est là où l'architecte va amener tout son savoir-faire et poser les bons composants où il faut, en les interconnectant de la bonne façon, en prenant les bons, de façon à ce qu'in fine, on arrive à produire le bon résultat et que le client ait vraiment le résultat qu'il attend et que ça lui permette d'avancer dans son cœur de métier. Typiquement, la SNCF, c'est dans le transport comme la RATP, ou Auchan, délivrer du produit et puis le vendre et puis faire la gestion des stocks et tout ce genre de choses. Et dans les banquiers, effectivement, tout ce qu'on peut imaginer qu'il peut y avoir dans la banque. Donc le but à la fin, c'est le bon système pour le client afin qu'il ait vraiment le résultat qu'il attend.
D'accord. Alors je viens de voir que ça vient de revenir en FM. On s'excuse pour le problème technique, mais qu'indépendamment de notre noté, quand on le dit dans ce cas-là, mais en plus c'est vrai, il y a un problème sans doute de diffusion, mais en tout cas sur le web, ça continue à se diffuser. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de l'émission, hein, sur causecommune.fm, bouton de chat, ou sur le site Libre à vous si vous avez envie de réagir ou poser des questions à nos deux invités, donc de Soprasteria et d'Atos. Donc là, on a un petit peu mieux vu, un peu plus compris ce qu'est une entreprise du service du numérique, notamment effectivement ce métier d'intégration avec donc des grands comptes qui ont des problématiques particulières, qui ont un métier particulier. Et effectivement, quand tu parles de volume, François, on imagine bien que Carrefour avec des volumes, alors je ne sais pas combien ils ont de magasins aujourd'hui et qu'il faut intégrer toute la compta, etc. Effectivement, c'est quelque chose d'assez monstrueux sans doute. Alors, est-ce qu'il y a, parce que pour l'instant on n'a pas encore parlé de logiciel libre, mais on va y venir un petit peu, dans ce choix justement de composants, de logiciels que vous allez proposer, comment s'intègre le choix de logiciels, on va dire privateurs sur boîte que vous allez intégrer, de développement interne que vous pouvez, ou à façon que vous pouvez faire pour les clientèles, et puis finalement les briques logiciels libres qui existent. Comment s'intègre la stratégie au sein de vos entreprises aujourd'hui? On va commencer par peut-être Soprasteria, François.
Oui, donc là effectivement déjà ça dépend un peu des clients, hein, parce que les clients, ce sont des gros clients, ils ont un historique. Donc ouais. Ils vont arriver, on va arriver dans leur environnement. Ils ont des habitudes, ils ont des choses qu'ils utilisent déjà. On ne peut pas changer ça comme ça du jour au lendemain. On parlait de gestion du changement tout à l'heure. C'est complètement lié à ça aussi parce qu'ils ont des équipes qui vont pouvoir faire la maintenance de ces systèmes ou un niveau d'exploitation. Donc on ne peut pas basculer comme ça d'un type de logiciel à un autre. Par contre, effectivement, c'est notre rôle aussi de venir pousser les bonnes briques au bon endroit. Nous, on a une bonne connaissance aussi, et de même Atos, hein, sur la qualité des logiciels libres sur certains composants spécifiques. Et en général, on les pousse quand même relativement fort, bien que en interne, par exemple, on a des solutions chez nous aussi de briques, comme Axway, par exemple, qui sont une autre partie d'édition de Soprasteria, qui permet de mettre en avant un certain nombre de composants plus orientés sur tout ce qui est digital, hein. Mais donc de pousser en avant ces composants et puis d'avoir l'habitude aussi de les intégrer, puisque c'est ça derrière. Ce que les clients recherchent aussi, c'est qu'on leur pousse le bon composant, mais le composant qu'on a l'habitude d'intégrer, qu'on a l'habitude de faire fonctionner avec un rythme ou des fréquences ou des volumes qui sont spécifiques, et on sait que ça va bien marcher. Et on va pas prendre n'importe quel produit au hasard en disant sur étiquette il y a marqué que ça fait ceci ou cela et que ça va marcher. Il faut vraiment qu'on ait une bonne expérience, une bonne connaissance des logiciels qu'on va intégrer, de façon à ce que dans la solution finale ça fonctionne de façon optimum, et on revient à ce que le client et ce qu'il attend, c'est-à-dire un système qui a les bons temps de réponse, qui gère les volumes et qui lui permet de faire son travail tous les jours sans avoir de problème.
D'accord. Alors, est-ce que je vais laisser Gilles commencer à répondre, après François tu répondras. Est-ce que le critère logiciel libre, au-delà de l'aspect de la qualité technique de l'outil, parce qu'on a bien compris évidemment que la qualité technique de l'outil importe, mais est-ce que le critère logiciel libre est un critère en faveur du choix du logiciel libre pour vos clients ou pour vos développements ou pour votre intégration à vous? Ou est-ce que finalement le fait que ce soit un logiciel libre, c'est pas si important que ça? Je parle bien le fait que le logiciel libre, ce soit une dynamique communautaire, contribution, etc.
Je pense pas que ça soit il y a l'aspect un peu philosophique, hein, militantisme du logiciel libre. Dans le monde de l'entreprise, on a deux catégories de clients, on va dire. On a le secteur public, hein, qui a qui a des objectifs
et qui a des devoirs, surtout
des attentes ouais. qui sont très spécifiques, et il y a le monde de secteur privé. Donc dans le secteur public, effectivement, c'est les besoins, les engagements, ce que souhaite le client qui va plutôt tirer la solution technique qui va, et donc c'est ça qui va tirer un peu le logiciel libre. Typiquement, on voit bien aujourd'hui les enjeux qui tirent l'open source, c'est la souveraineté. C'est l'interconnectivité, l'ouverture, c'est l'innovation. Donc des clients qui vont avoir comme challenge d'avoir des problématiques très, très importantes autour de la souveraineté, bah, typiquement le secteur public, hein, avec la protection des données, etc. On va plutôt se tourner sur des solutions open source, parce que dans l'open source, bah, justement la philosophie, c'est que le code est ouvert. Donc il y a une transparence de la constitution du logiciel, et donc à partir de ce moment-là, la notion de on est capable de gérer le logiciel, on est capable de le maîtriser, on est capable de le faire évoluer, et donc on en prend une sorte de souveraineté. Et c'est ça qui va militer pour aller dans cette direction sur des secteurs publics. Sur le secteur privé, on est plus dans une échelle économique. Donc le vecteur, ça va être plutôt
réduction de coûts, c'est ça, dans ce sens-là.
De coûts, tout à fait. D'accord. Où là, on n'a plus la notion de licensing par rapport aux solutions éditeurs. Donc c'est plutôt
de coûts de licence,
qui va être l'élément moteur pour aller dans les solutions privées.
Voilà. D'accord. Alors on va faire bientôt une pause musicale, mais sur cette question-là, François Bessaguet de Soprasteria.
Bah effectivement, on a une dichotomie entre les gros clients qui sont les ministères et les services publics et les services privés. Cela dit, effectivement, l'objectif du client, in fine, c'est quand même la performance. Hein. Et puis le temps de réponse en termes de support, hein, je ne parle pas en temps de réponse du système lui-même. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va lui apporter la bonne solution au bon endroit. Et c'est ça, en fait, qui va le déclencher quelque part, puisqu'en fait, in fine, l'objectif du client, ce n'est pas tellement la solution informatique. Ce qu'il veut, c'est que ça résolve son problème métier. Par exemple, la RATP, il veut que les trains tournent. Il faut que les trains tournent et qu'il n'y ait pas d'arrêt. La SNCF, c'est pareil. On parlait des banques, on parlait des grandes entreprises comme Auchan et puis et Carrefour, EDF, tout ça. C'est faire leur métier. Donc on leur apporte le bon composant. Et nous, effectivement, on peut parfois arriver sur des composants, on va dire, fermés. La source fermée, parce qu'effectivement, il y a des très très bons composants source fermée, mais il y a des très mauvais composants source fermée aussi, comme il y a des très très bons composants open source, et il y a des très très mauvais composants open source aussi. Donc c'est à nous de faire le pendant, et en fait, à chaque fois, on se rend compte qu'en fait, à la sortie, on ne donne pas un système informatique au client qui est pur sur du fermé ou pur sur de l'ouvert. À chaque fois, c'est un mix. Il y a de tout. L'open source, de toute façon, se retrouve partout. Et on le retrouve donc sur les piles réseau, ce genre de choses, mais aussi sur toutes les fonctions un petit peu périphériques qu'il peut y avoir, qui permettent de faire la maintenance du logiciel. Mais aussi, sur certaines grandes fonctions, on retrouve des logiciels libres qui ont, on va dire, pignon sur rue, et qui sont vraiment bien installés, qui ont une belle visibilité, et autant que des produits qui sont en source fermée, qui sont poussés par des très très grands acteurs qu'on ne citera pas.
Tu peux les citer, si.
On va citer des IBM, des choses comme ça, des Oracle, qui ont des très très bons composants aussi, mais qui sont concurrencés aussi. Et justement,
est-ce que tu peux citer un ou deux concurrents justement?
Bah typiquement sur de l'Oracle, on a du PostgreSQL, pas forcément sur.
Alors c'est de la base de données, on va dire.
Tout à fait, c'est de la base de données. C'est pas forcément sur toutes les utilisations, mais sur certaines utilisations, ils sont concurrents. Et c'est ça, cette concurrence, parce que ça permet de pousser un petit peu Oracle dans ses retranchements, la communauté PostgreSQL pour essayer d'avancer, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a quelques années, ils avaient quelques petites faiblesses, par exemple. Mmh. Et maintenant, ils sont revenus, ils sont arrivés avec des choses plus performantes. Donc vraiment, il y a une émulation, et il y a cette philosophie derrière aussi qui permet effectivement, qui rajoute un petit plus quand même, qui vis-à-vis, par exemple, de nos développeurs, est vraiment un plus, parce que ça apporte un supplément d'âme, on va dire, quelque part.
Ah bah écoute, c'est juste avant la pause musicale, c'est un très bon terme, et on parlera tout à l'heure d'ailleurs des équipes internes, notamment du recrutement et du rôle que peut jouer la motivation logicielle. Mais on va d'abord faire une pause musicale. Alors c'est une pépite découverte sur le fil, sur le site, excusez-moi, auboutdufil.com. Evan Finch est un youtubeur, musicien et producteur américain, aujourd'hui installé à Taipei, à Taïwan. Sur sa chaîne YouTube, il publie des vidéos dans lesquelles il filme sa propre réaction à l'écoute de nouvelles sorties musicales avec des genres pop, dans le genre pop punk, post-hardcore ou encore erno-rap, ne me demandez pas ce que c'est. Bien que sa chaîne YouTube représente la majeure partie de son activité sur le web, il publie une à deux vidéos par semaine. Evan Finch n'est pas seulement un critique musical, il est également musicien. Il chante, pratique la guitare et produit sa musique originale sur ordinateur. Nous allons donc écouter The Fugitive par Evan Finch. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter The Fugitive par Evan Finch, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
En introduction, j'ai dit tout le bien que je pensais du réalisateur du jour, Étienne. Et... Mais ceci dit, nos invités sont tellement passionnants qu'on discutait encore hors antenne pendant la pause musicale et on n'a pas remarqué qu'en fait ça avait repris. Donc c'est plutôt nous qui nous excusons. Donc nous poursuivons notre discussion qui porte sur les grandes entreprises de services du numérique avec François Bessaguet de Soprasteria, Gilles Lehoud d'Atos. Juste avant la pause musicale, François Bessaguet parlait d'un supplément d'âme avec le logiciel libre, notamment pour les équipes en interne. Donc on va un petit peu poursuivre. ESN, c'est donc entreprise de services du numérique, donc c'est un terme qui a remplacé l'ancien terme de SS2I, société de services en ingénierie et informatique. Quand je travaillais à Capgemini, c'était le terme qui était il y a 20 ans utilisé. Et il y a un autre terme qui s'est développé depuis quelques temps aussi, qu'on va employer qu'une seule fois l'acronyme, c'est ENL, entreprise du numérique libre. Donc en gros, ce sont des sociétés de services qui sont spécialisées dans le logiciel libre, donc qui sont plutôt de taille beaucoup plus réduite, hein. C'est plutôt TPE, PME, peut-être que la plus grosse doit avoir peut-être 200 ou 300 personnes, et encore, je ne sais pas, peut-être que Gilles me corrigera. Hein. Donc ces entreprises-là sont spécialisées dans le logiciel libre, et la question naturelle qu'on peut se poser, c'est quelles relations entretiennent les grandes ESN, telles que Sopra Steria et Atos, avec ces entreprises du numérique libre. Qui veut commencer ?
Je peux commencer.
François Bassaguet,
déjà, on parlait de l'ENL, tu disais qu'effectivement, il y a les SS2I avant, et il y avait les SS2L avant.
Oui, les sociétés services
dans le logiciel libre. Ouais. Effectivement, on a quand même beaucoup travaillé avec ces sociétés-là. Le positionnement d'une grosse entreprise comme Sopra Steria ou Atos, hein, en fait, c'est d'être généraliste. On arrive, on est capable d'aborder le système informatique dans son entièreté, hein, de A à Z, que ça soit du conseil jusqu'à la maintenance, l'exploitation, alors que les petites entreprises type NL, elles sont plus pointues sur un panel de logiciels beaucoup plus réduit, sur des fonctions plus réduites. Et là, nous, le rôle qu'on a, c'est aussi de faire appel à elles pour dire, ben voilà, là, on a un problématique, là, on a quelque chose de spécifique, et là, on va pouvoir faire appel à une NL plus particulièrement pour pouvoir nous aider en collaboration à traiter le problème et à travailler. Donc, c'est pas vraiment les mêmes marché, on ne se marche pas forcément sur les pieds. C'est-à-dire que, enfin, Gilles pourra le dire.
Oui, on est plus complémentaires, c'est
d'accord
avec toi.
Exactement. Jamais on n'a été mis en concurrence avec une ENL. Ça n'existe pas. On aborde des marchés qui sont énormes. On parlait tout à l'heure de millions. Une ENL ne va pas aborder ce genre de marché parce qu'elle sait très bien que si ça se passe mal, ça va être très compliqué. Elle va mettre la clé sous la porte la plupart du temps. Alors qu'une grosse entreprise comme Sopra Steria, c'est sûr que ça ne va pas être forcément amusant, mais on va s'en sortir. Donc on le fera. Et le client, c'est pour ça aussi qu'il vient nous voir. C'est qu'il sait que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on fera le travail jusqu'au bout.
Alors, donc si je comprends bien, et après je poserai une question spécifique à Gilles Lehoux sur un marché particulier, une ESN, grande ESN comme Sopra Steria ou Atos ou une autre, hein, ponctuellement peut se dire sur un marché qu'elle a gagné, donc un grand marché sur lequel une entreprise de numérique libre ne peut pas forcément répondre, mais par contre elle va faire appel ponctuellement à une de ces entreprises si elle a une expertise forte sur ce métier, sur ce code-là, qui n'est pas pour laquelle Sopra Steria n'a pas forcément cette expertise, ou qu'elle veut s'appuyer sur quelqu'un qui est encore peut-être plus proche de la communauté, justement pour pouvoir contribuer au code.
Tout à fait, plus proche de la communauté, plus pointu. Après, c'est pas forcément que ponctuel, hein, ça peut être sur une longue distance.
D'accord.
Le but du jeu, c'est de les faire travailler aussi là-dessus. Et puis parce qu'il y a une vraie reconnaissance de la part des grosses ESN de l'apport technologique et technique de ces petites entreprises sur un certain nombre de produits et sur un certain nombre de spécificités.
D'accord. Alors Gilles Lehoux d'Atos, j'ai une question particulière sur un grand marché que Atos a remporté récemment, justement en partenariat avec des entreprises du numérique libre. C'est le fameux marché de support interministériel. Alors c'est ça doit être 350
logiciels, oui, tout à fait, open source.
Alors, comment s'est fait rapidement la réponse à cet appel d'offres pour associer à la fois Atos et des entreprises du numérique libre?
Si tu veux, on est arrivé au constat que, évidemment, pour assurer le support de 350 logiciels libres, même si on est 110 000 personnes chez Atos, on va avoir des difficultés à pouvoir avoir une expertise de niche sur certains logiciels. Donc c'est ce que disait François. Hein. Donc typiquement, pour répondre, parce que tout l'enjeu c'est toujours de la satisfaction client, d'être capable de fournir des offres qui sont vraiment pertinentes à nos clients, on s'est dit que la meilleure façon d'arriver à ce résultat-là, c'est d'associer les meilleurs dans leur catégorie. Donc les meilleurs dans leur catégorie, comme le disait François, c'est capacité de Atos à gérer, d'être un généraliste, hein, donc d'avoir beaucoup de compétences partout en France. Et on a aussi évidemment des capacités très pointues sur certains logiciels open source, mais pas sur un ensemble de ces 350. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé avec un certain nombre d'acteurs de la communauté open source. Donc nous déjà, on a fait une première démarche, c'est que on a changé notre philosophie aussi sur l'open source, c'est-à-dire que jusqu'à une certaine époque, on était plutôt un utilisateur de l'open source. Voilà. Maintenant, ce qu'on a décidé, c'est de s'impliquer plus fortement dans l'open source et d'arriver à avoir une expertise et d'être intégré dans les communautés. Donc cette approche par ce marché-là, c'est une première approche pour créer cette intégration dans la communauté. Pour ça, on est devenu adhérent du CNLL, le Conseil National du Logiciel Libre. Donc ça nous a permis d'améliorer notre collaboration avec l'écosystème open source. Et sur ce marché spécifiquement, avec cette connaissance du marché, on a défini quels étaient les acteurs qui étaient les plus pertinents pour répondre à ce marché. Donc on a répondu avec sept sociétés d'open source, hein, donc Alterway, Arawa, Bluemind, Marsh, Auslandia, FactorFX et Vortex. Hein, qui sont toutes des spécialistes dans leur domaine et qui ont permis de compléter le dispositif apporté par Atos.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je vais poser la question aux deux, c'est que tu as parlé d'une structure utilisatrice de logiciels libres qui devient finalement quelque part, qui en tout cas a l'ambition de devenir contributrice. Et c'est vrai qu'un point essentiel dans le logiciel libre, c'est la contribution. Parce qu'on ne sait pas simplement utiliser du code source, c'est éventuellement y contribuer, ne serait-ce qu'en interne, par exemple, pour adapter pour un client. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la stratégie de contribution des deux entreprises par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a des difficultés pour contribuer? Voilà, François Bessaguet déjà, Soprasteria.
Techniquement déjà, il faut que la contribution elle ait une logique dans ce qu'on est en train de faire. Il y a une logique dans l'orientation qu'on donne à l'entreprise en tant que SN, donc sur des composants qu'on utilise relativement souvent, sur des composants sur lesquels on met un petit peu un accent particulier. Et là, effectivement, là-dessus, il peut y avoir une logique de contribution. Par contre, la problématique, c'est que ces composants deviennent de plus en plus complexes. Donc en fait, les développeurs qu'on va pouvoir mettre sur ces points-là, à partir du moment où on souhaite qu'ils contribuent, il faut qu'ils aient une connaissance intime, effectivement, de la souche logicielle open source qu'ils vont pouvoir modifier. Ça arrive, mais c'est pas forcément facile, puisque effectivement, on a une vocation généraliste à la base. Donc forcément, on utilise les logiciels, et une grande partie open source, on les assemble, mais par contre, on ne descend pas forcément dans le fonctionnement intime de chaque brique. Alors ça arrive de temps en temps, mais effectivement, sur des logiciels relativement ciblés, et après, c'est à nous de choisir nos combats pour nous dire, là, on va aider sur tel logiciel ou tel logiciel, et là-dessus, effectivement, en tant que Soprasteria, on avance, on n'est pas encore aussi avancé qu'on souhaiterait, mais on a déjà des gens qui font de la contribution, on a eu des gens qui piloter par exemple des projets Apache, des gens comme ça, et certains qui contribuent sur des projets, on peut citer du Mantis, on peut citer du JMeter, qui sont des logiciels pour faire des fonctions qui tournent autour du système d'information, mais c'est pas quelque chose de systématique, parce qu'effectivement, dans la globalité effectivement du logiciel et dans notre généralité en termes d'approche, on ne peut pas se pencher de façon aussi pointue qu'on souhaiterait sur un logiciel particulier. Donc il faut vraiment qu'il y ait des choix quelque part.
D'accord. Et côté Atos, Gilles Lehoux ?
Oui, bah, je reprendrai effectivement un peu ce que dit François. On peut pas non plus être contributeur de tous les logiciels open source, hein. Donc, on se spécialise sur certains d'entre eux. Donc, typiquement, nous, on a dans notre équipe, on fait des reversements sur Grafana, par exemple, hein. Donc, on a des gens dans des jeunes
Grafana,
ingénieurs.
Grafana, rappelle-moi ce que ça,
c'est un système de supervision, oui, open source, hein. Okay. Donc, sur lequel on fait des contributions. On a fait des contributions aussi, sur GNU Cobol. Donc, là okay, aussi, on a.
GNU Cobol.
Ouais, parce qu'on a des clients, bah, typiquement, l'interministériel, c'est l'État, hein, c'est la direction des finances, hein, puisque ils ont beaucoup de logiciels en COBOL, ouais. Quoi, de logiciels en COBOL, donc il a fallu, ils ont des programmes de transformation, donc on les a aidés, et là-dessus on avait des contributions, donc là aussi nous on va choisir les logiciels sur lesquels on va intervenir et progresser, mais les contributions elles sont. Bon, ça, c'est un premier axe de contribution, hein, le développement. Les contributions, c'est aussi faire vivre l'écosystème open source, hein. Donc, évangéliser l'open source. Donc, typiquement, moi, dans la philosophie que nous, on a mis en place chez Atos, c'est du temps est consacré à contribuer de façon technique, en reversant du code, hein. Une autre contribution, c'est dans l'évangélisation. Donc pour ça, nous on participe à tous les événements open source de France, hein. On était au l'open source expérience de cette année, quoi, de l'année dernière, de mois de novembre. Et notre objectif, c'est de façon à être intégré dans cet écosystème, d'être vraiment un acteur qui contribue à l'écosystème, mais de façon active. Moi, j'ai par exemple Christophe qui passe du temps, qui va sur les salons, sur son temps. temps sur son temps sur son temps de l'entreprise.
C'est évidemment
sur son temps personnel, mais dans le temps de l'entreprise, il est détaché pour pouvoir contribuer dans les communautés. On a été à Berlin pour des événements de Nextcloud sur notre temps professionnel. D'autres étaient au Canada. Christophe est allé au Canada aussi pour des événements professionnels sur son temps professionnel. Donc on veut s'impliquer dans cette.
C'est Christophe, le nom de famille.
Villeneuve,
parce qu'en fait je viens de voir un pseudo arriver sur le salon web et c'est Christophe Villeneuve.
Voilà, donc Christophe, il participe pas mal d'événements. Et puis le dernier point, c'est l'intégration dans la communauté. C'est-à-dire, bon, on fait de l'évangélisation sur les logiciels open source, mais aussi on veut s'intégrer à l'écosystème open source. Et ça aussi, donc en étant membre maintenant du CNLL, moi je participe maintenant au Hub Systématique. On veut intégrer pour pouvoir justement porter cette notion de groupement dans le cadre des projets qu'on veut réaliser.
D'accord. Alors je vais relayer juste une question qui est en lien avec ça, parce que je viens de la voir et je précise qu'on va avancer parce que le temps. Donc il y a une question sur le salon web. On sait que des systèmes informatiques reposent parfois sur des briques logiciels libres critiques, très utilisées mais maintenues par très peu de personnes avec très peu de moyens. Et lorsqu'une faille est découverte dans l'une d'elles, ça peut faire beaucoup de dégâts. L'exemple d'Earthbleed n'est pas le plus récent, mais fait beaucoup parler. On va pas rentrer dans le détail. Alors Soprasteria et Atos ont-elles une stratégie par rapport à ça, éventuellement? On vient d'en parler, de contribution à si elle s'appuie sur ces briques. Donc ces fameuses briques de sécurité qui sont développées par très peu de personnes.
Côté Soprasteria, on a une frange cyberdéfense qui est extrêmement importante, qui est utilisée entre autres par Airbus, mais pas que, et qui justement surveille ce qu'on appelle ces common vulnerability, ces failles en fait de sécurité qui sont trouvées dans les logiciels. Et elles n'existent pas que dans les logiciels open source. On parle de l'open source parce qu'effectivement c'est celles qui sont le plus prégnantes et c'est celles qui ressortent le plus parce qu'ils sont très utilisés. Mais on peut trouver des failles dans n'importe quel logiciel. Malheureusement, c'est un petit peu la nature même.
Mais l'avantage du logiciel, c'est qu'on découvre les failles. Alors que dans les systèmes privateurs, elles sont souvent cachées.
Voilà, tout à fait, exactement.
Et pas corrigées.
On est d'accord. Et là, du coup, effectivement, là-dessus, ce qu'on essaie de faire, c'est déjà d'être un petit peu en avance de phase dessus. Par contre, c'est ce qu'on appelle en général des failles zéro day. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on les découvre, on n'a aucune solution. Et c'est ça le problème. Ouais. Donc en fait, nous, on essaye d'aider nos clients à aller là-dessus, à avoir des solutions qui permettent de bien identifier tous ces logiciels et puis d'avoir un mapping, une cartographie, de façon à savoir exactement ce qu'on utilise et quoi dans les parties système d'information de nos clients, et être à même de les avertir et de leur apporter des solutions.
D'accord. Alors, on reviendra peut-être sur ce sujet, mais je voudrais qu'on change un peu de sujet pour être sûr de l'aborder, parce que le temps passe vite. C'est un sujet, je sais, important, qui est la ressource humaine, qui est le recrutement. Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour recruter des personnes ayant des connaissances libristes ? C'est-à-dire, connaissances libristes, j'entends bien à la fois techniques et puis de connaissances du fonctionnement des communautés, etc. Est-ce que le recrutement est facile pour vous ? Est-ce que vous trouvez les profils que vous cherchez ? Gilles Lehoux, Atos.
De toute façon, sans même se cibler sur le logiciel libre et les libristes, le marché de l'emploi dans l'informatique est extrêmement tendu. Donc de façon générale, de trouver des compétences aujourd'hui, c'est compliqué. Le marché est en très nette compétition. Alors si on parle en plus de l'aspect libriste, c'est encore plus compliqué, puisque évidemment ça fait un système d'entonnoir. Il y a peu de personnes qui sont vraiment impliquées dans le logiciel libre. Donc trouver ce type de profil est encore plus compliqué dans la situation actuelle. Maintenant, effectivement, on a des difficultés parce que les personnes qui vont travailler sur ces composants logiciels libres, ils ont plus l'habitude de travailler dans des petites structures. Donc, ils n'arrivent pas à identifier en quoi travailler dans une ESN. Qu'est-ce que ça va leur apporter ? Est-ce que ils vont vraiment travailler dans du logiciel libre ? Donc, c'est là où justement nous on a changé notre philosophie, pour pouvoir attirer ces talents chez nous. Pour leur démontrer qu'on fait des contributions, on fait des actions et démontrer l'avantage des ESN. Parce que L'avantage des ESN, c'est aussi d'apporter une dimension à certains projets. Nous, on a, comme on l'a abordé, là, l'élément, un des éléments fondamentaux, c'est la capacité, les projets d'envergure sur lesquels on est capable d'intervenir. Donc ça, typiquement, ce sont des sujets qu'on peut offrir à nos collaborateurs. Autres éléments, la progression. Au niveau technique et au niveau carrière. Au niveau technique, nous avons des programmes de certification pour faire monter et en perpétuel apprentissage nos collaborateurs. Donc ça, c'est aussi une des capacités d'un grand groupe, c'est de pouvoir proposer des programmes de formation. Donc moi, par exemple, dans mon équipe, les gens ont des programmes de formation. Par exemple, je donne un exemple assez concret sur Red Hat. On a des programmes de formation qui durent un an et nos collaborateurs peuvent en bénéficier pendant un an. Donc c'est assez important. En plus, c'est des certifications qui sont vraiment reconnues dans le monde de l'entreprise. Et puis le dernier point, c'est la capacité à évoluer dans l'entreprise. Et typiquement, moi, dans mon équipe, là aujourd'hui, j'ai un jeune homme, on peut dire encore ça, il a 30 ans, il est rentré en stage. Au bout de 5 ans, c'est lui qui est devenu le responsable de mon équipe cloud. D'accord. Voilà, donc il est passé du stage en 5 ans à responsable de l'équipe cloud. Voilà.
Okay. Donc, François Bessaguet, sur cette question ?
Oui, effectivement. Au-delà, effectivement, de la formation qui est donnée, Gilles a raison, effectivement, ce genre de choses. Ce qui est important au niveau des ESN, en fait, c'est la multiplicité. Quand on a une boîte nous, c'est 50 000, Atos, j'ai retenu, c'était 110 000. Forcément, on a un nombre de projets qui est énorme. Donc forcément, pour quelqu'un qui vient avec une volonté de travailler dans certaines solutions libres qui sont ciblées, parce qu'effectivement, on ne va pas non plus, comme je disais tout à l'heure, on fait des choix sur certains trucs, c'est plus facile de lui trouver des projets qui vont tourner autour de ces composants-là que quand on est une petite ESL ou ENL, qui va avoir 2-3 projets et puis une fois qu'on est sorti de là, c'est un peu compliqué. Et là, on a un panel et puis après, quand on parle de panel de projets, c'est aussi aller à l'étranger, c'est aller travailler en Angleterre, travailler en Belgique, en Espagne, même en Inde, pourquoi pas, et puis ce genre de choses. Donc franchement, ça permet d'avoir une ouverture qui est importante et puis de pouvoir leur garantir effectivement d'être relativement stable sur un certain nombre de technologies, même à notre niveau, c'est pas forcément toujours évident. Mais pour NUNL, là je pense que c'est carrément impossible.
Alors, je vais avoir après une question sur la diversité, mais une question avec une réponse rapide si possible. Dans une entreprise de numérique libre, par contre, l'un des avantages, la taille humaine réduite peut être un avantage, mais surtout, il y a la garantie quasiment de ne faire que du logiciel libre ou de travailler que sur des composants libres. Est-ce que quelqu'un qui candidate et qui arrive chez Soprasteria ou chez Atos, cette personne a-t-elle cette garantie de ne pouvoir faire que du logiciel libre ou pas?
Après, moi, je dirais, effectivement, ça dépend dans quel domaine il vient. Si c'est dans des domaines publics, effectivement, c'est pas une garantie à 100%, d'accord, mais elle est très proche. Okay. Je peux pas dire 100% non plus.
D'accord.
Par contre, pour le privé, c'est plus compliqué.
D'accord. Côté Atos, une question.
Écoute, moi, mon entité, c'est Atos Open Source. Moi, ceux qui viennent chez moi, ils font 100% d'open source. Et ça, c'est une garantie. Je veux dire, tu t'imagines bien que, vu les demandes qu'il y a autour de l'open source, on a quasiment la garantie que les personnes qui veulent faire de l'open source ne feront que de l'open source. Après, c'est aussi un choix personnel du collaborateur. Il peut vouloir évoluer vers d'autres technologies.
Non, mais ça,
et à ce moment-là, la possibilité, d'accord, lui offerte.
Ok, alors question de diversité en deux parties. Première question de diversité, la question des, on va dire, bon, je ne sais pas si c'est parcours atypique, mais traditionnellement, les grandes S2N, enfin moi quand je suis arrivé à Capgemini il y a 20 ans, j'avais pas un bac plus 5 et on l'a bien fait comprendre, donc traditionnellement on prend des bacs assez élevés et à la limite on les forme un petit peu à l'informatique et on les voit sur la mission. Alors que dans le monde du logiciel libre, aujourd'hui, et de plus en plus aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, qui pourtant se sont formés depuis plusieurs années, auto-formés même à partir de 10-12 ans, donc c'est des profils un petit peu atypiques par rapport à ces grandes ESN. Est-ce que vous prenez en compte ces types de profils lors des recrutements? Donc typiquement une personne qui n'a même pas de diplôme ou qui a le bac, mais qui a des compétences et une expérience logiciel libre, est-ce qu'elle a une chance d'intégrer vos entreprises et d'intégrer quelque part au même niveau, notamment salarial, que ceux qui ont un bac plus 5 ou autre. François Bessaguès.
Ouais, ça, c'est un sujet, je vais dire, qui est extrêmement compliqué. Effectivement, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. C'est pas évident à la base. Cela dit, Sopra-Steria est structuré d'une façon assez particulière. C'est-à-dire qu'en fait, les différentes unités qui la composent sont relativement autonomes.
D'accord.
Et si elles décident effectivement de pousser sur tel ou tel profil, c'est une possibilité. Mais ça va être au cas par cas. C'est pas quelque chose qui va être poussé au niveau groupe, où là, effectivement, on essaie de pousser une tendance. Et après, bon, c'est difficile de pousser ce genre d'orientation au niveau groupe. D'accord. Par contre, au niveau pays et unité, c'est possible.
Ok. Côté Atos, Gilles Lehoux.
Nous, on a la volonté effectivement d'intégrer des gens qui ont un parcours un peu différent. Hein. Mais intégrer des gens qui ont un parcours un peu différent, on est quand même dans des domaines de haute technologie. Donc il faut arriver quand même à avoir le bagage suffisant pour pouvoir intégrer nos équipes. Donc pour ça, on a des programmes d'accompagnement. Donc on a plusieurs programmes. On a ce qu'on appelle les POEI. Hein,
C'est les
plans d'accompagnement pour l'intégration à l'emploi. Hein, donc c'est typiquement avec Pôle emploi. On prend des gens qui ont une formation de non-informaticien ou qui ne sont qui peuvent être bac plus 4 ou moins de bac plus 4, et à ce moment-là, on va les accompagner avec des formations pour pouvoir monter en compétences. On a d'autres programmes nous qu'on mène là qui s'appelle Ignite chez nous, où pour les jeunes les jeunes ingénieurs, on leur propose des formations de 6 mois en complément de leur cursus pour pouvoir monter en compétences. Donc on a aussi à adapter notre mindset, parce que le marché de l'emploi, il est du fait de notre état d'esprit, il est que si on reste sur le même logiciel, on va avoir du mal à recruter. Donc on sait qu'il y a des talents qui ont eu des parcours qui sont beaucoup plus moins académiques, et on essaye de trouver, parce que c'est pas le tout de dire ok, on va les prendre avec nous, il faut savoir les intégrer dans nos équipes, il faut et qu'ils soient capables de pouvoir réaliser les activités qu'on leur demande de faire, et donc à ce moment-là on a des accompagnements.
D'accord.
Voilà, qui sont mis en place.
Okay. Alors dernière question avant la question de résumé final, toujours sur la diversité, second sujet. Diversité de genre, on sait que l'informatique, c'est quand même...
C'est
il y a
compliqué.
Un gros problème, voilà. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques? Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique pour cette diversité de genre, et notamment la place des femmes?
Sopra-Steria, depuis, on va dire, depuis 2 ans, on met le paquet.
D'accord.
Là-dessus, on met le paquet. Sur le genre, sur tout ce qui est parité, sur tout ça. Je veux dire, l'informatique n'a pas de sexe, n'a pas de genre, n'a pas rien. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on demande, c'est de la compétence. Voilà, c'est tout. Et puis, c'est open. Et il y a vraiment une guerre qui est faite, parce qu'effectivement, sur un grand groupe, on parlait de gestion du changement. Ça, c'est une gestion du changement aussi. C'est que les gens arrivent à comprendre ce genre de choses. Donc, il y a des animations, des formations qui sont faites régulièrement pour pousser à fond ce mindset et pour bien faire comprendre que ce qu'on recherche, c'est de la compétence, point.
Voilà. D'accord.
Et puis c'est tout.
Gilles Lehoux ?
Oui, on a la même philosophie au niveau de nos groupes. Hein, ce qui compte, c'est la compétence avant tout. On voudrait diversifier nos équipes, parce que pour apporter justement un peu plus de sang féminin, d'autres genres, parce que ça apporte aussi une richesse dans les équipes d'avoir cette diversité. Hein. Moi, je milite pour qu'on ait beaucoup plus de mixité, mais effectivement, c'est beaucoup plus compliqué, parce que de base, il y a peu de personnes qui, hors hommes, qui veuillent faire de l'informatique. Donc nous aussi, du côté Atos, on a engagé des programmes très très forts pour faire de l'inclusion, pour recruter plus de personnes de différents genres dans nos équipes, et de les accompagner, comme j'ai dit, avec les programmes INAI, POI, à avoir les compétences qu'il faut.
D'accord. Alors je vais faire ma dernière question, mais je vais juste signaler que dans le programme de l'émission le 12 avril, on parlera en détail de cette question, notamment avec Isabelle Collet, qui est une chercheuse un peu spécialiste du sujet, et avec Stefano Zaccheroli, qui a publié récemment une étude sur la place, notamment sur la diversité de genre dans les projets logiciels libres, donc le 12 avril. Et en juin, on aura aussi un autre sujet avec 3 développeuses qui nous raconteront un peu leur expérience et leur parcours. Mais la question finale, parce que le temps file, donc pour conclure, quels sont les éléments clés selon vous à retenir de cette émission, au moins de 2 minutes chacun? On va commencer par François Bessaguès, Sopra-Steria.
Donc sur Sopra-Steria, clairement, c'est le recrutement. le recrutement. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de reskilling ou de reconversion. Donc on est à fond là-dedans, on cherche à recruter un maximum de personnes. On va les former, on va leur apporter tout ce qu'il faut, effectivement, pour qu'ils puissent s'intégrer et puis monter en niveau pour pouvoir être au niveau qu'on attend pour nos clients. Ça, c'est numéro un. Et puis après, c'est la transformation numérique, effectivement, avec les dernières technologies, en poussant beaucoup sur l'open source, parce que c'est un point très important. Et on s'aperçoit que l'open source est quand même une brique innovante qui est importante dans toutes ces choses-là. Quand on regarde tout ce qui est cloud, il y a énormément d'open source dedans, il y en a quasiment partout. Donc c'est vraiment le fer de lance de l'innovation, c'est effectivement l'open source. Donc sur l'innovation, la transformation numérique et puis le recrutement.
D'accord. Gilles Lehou, Atos.
Donc moi, en synthèse, ce que je dirais, c'est que Atos est un acteur de l'open source. Hein, donc il le démontre. Hein, il met à disposition des offres industrielles auprès de ses clients et son expertise pour accélérer la transformation digitale de ses clients. Donc on a des très belles références. On a parlé de l'interministériel. Bientôt, on en annoncera d'autres dans le secteur public aussi, hein, où on a gagné des très beaux contrats. Mais pour l'instant, on n'a pas le droit de communiquer. Deuxième axe, c'est qu'on s'implique dans le développement de l'open source, hein, donc on est avec donc en faisant des contributions, en participant à l'écosystème et en ayant un partenariat fort avec l'écosystème. Donc c'est un autre axe de venir rejoindre Atos. Rejoindre les équipes d'Atos, bah c'est pas que travailler, c'est rejoindre un projet, hein, parce qu'on est on a une philosophie open source, on veut développer l'open source. Donc on a un fonctionnement de start-up, on est vraiment dans la collaboration, créer une communauté autour de nous, on crée un projet et moi, ce que tout le monde est embarqué dans la création de ce projet-là. Hein. Donc, rejoindre Atos et rejoindre l'entité open source, c'est travailler dans une start-up au sein d'un grand groupe, hein, avec, comme le disait François, des projets très riches, très divers, sur différentes technologies, dans différents domaines et voire différents pays. Et puis, donc, on cherche aujourd'hui beaucoup de personnes, des architectes, des chefs de projet, des experts, mais aussi des ingénieurs open source avec une expérience un peu plus légère. Donc tous les profils sont les bienvenus. Et venir chez nous aujourd'hui dans mon équipe, c'est faire de sa passion l'open source son métier. Voilà.
Écoutez, on a bien compris que le recrutement est un point clé. On a oublié de préciser que dans le soutien ou les contributions de Sopra Steria au logiciel libre, il y a le soutien à l'April, hein, parce que Sopra Steria est membre de l'April depuis plusieurs années. On en profite pour faire d'ailleurs un petit message, un petit coucou à François Mazon, qui était anciennement chez Steria et qui avant était à Capgemini, que j'ai rencontré là-bas. Donc voilà, c'est un soutien aussi important à nos actions et qu'on remercie. Donc notre sujet, c'était donc les grandes entreprises de services du numérique et le logiciel libre, donc avec François Bessaguet, qui est donc directeur technique groupe de Sopra Steria, et Gilles Lehou, qui est responsable de l'entité open source d'Atos. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci Frédéric.
Merci beaucoup Frédéric.
On va faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Luc sur la reconnaissance faciale. Alors le titre que nous allons écouter est une pépite trouvée, bien entendu, encore une fois sur le site auboutdufil.com, un titre tout en délicatesse, onirique et relaxant. Le titre du morceau ne trompe pas, le mot Gaïa vient du grec et il signifie terre. Gaïa est une musique douce et calme qui renvoie l'idée de méditation, d'unité avec la planète Terre et de contemplation de sa beauté. Nous allons écouter Gaïa par Nova Noma. On se retrouve dans 3 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
d'écouter Gaïa par Nova Noma, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique La Pituite de Luc. La Pituite de Luc est une chronique rafraîchissante, au beau goût exemplaire, qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens, et décuple le sexe à pile. Retour de l'être aimé, il reviendra manger dans votre main comme un petit chien. La chronique du jour est intitulée La vue claire et porte sur la reconnaissance faciale.
En ces temps troublés, la lucidité et la clairvoyance sont des choses précieuses. En la matière, nous autres libristes pouvons nous vanter d'avoir vu venir quelques coups pourris. Je me souviens de ces gens qui nous traitaient de parano quand on avait pesté en apprenant à quel point les militaires utilisaient Microsoft pour jouer avec leurs trucs stratégiques. Quelques semaines plus tard, Edward Snowden révélait l'ampleur de la surveillance de la NSA. Je me souviens aussi de cette fois où nos mirages étaient indisponibles à cause d'un bug Windows. Depuis tout ce temps, l'armée a renouvelé son business avec Microsoft avec un aveuglement constant. Je crois qu'il est grand temps de réviser le statut handicapé de la grande muette. Je dis que je me souviens parce que c'était il y a longtemps et que je n'ai pas retrouvé d'article sur le sujet. Peut-être que ma mémoire force le trait, peut-être que je confonds. En fait, rien n'est clair. Quand je dois parler des méfaits des GAFAM à mes contemporains, j'ai du mal à résumer les choses avec une position claire et tranchée. Oui, Amazon abuse de sa position pour tirer profit de ses vendeurs tiers, mais n'a pas encore été condamné. Ou juste un peu. Et pas chez nous. Oui, Francesca Hogan a fait fuiter des infos qui prouvent que Facebook connaissait les effets néfastes. Oui, les réseaux sociaux sont globalement de droite, mais la société est-elle si fragile? Et peut-on faire sans ces acteurs incontournables et parfois utiles? Oui, Cambridge Analytica a fait basculer le résultat d'élections, mais c'est surtout ce que prétend leur propre pub, et il y a des études qui minimisent leur influence. Mais il y a pire, la clairvoyance et la lucidité, c'est exactement ce que revendiquent les complotistes, qui ignorent les nombreux dangers imminents qui nous guettent, pour échafauder des scénarios dignes de méchants de James Bond. Cet été à la plage, je pense que nous allons être victimes d'attaques de requins avec des lasers fixés sur leur tête. Mais bien entendu, ils étoufferont l'affaire, car oui, la presse est massivement possédée par une poignée de milliardaires. Enfin bref, c'est sans fin. Moi, ce que je voudrais, c'est juste un peu de certitude. Un repère solide et non négociable, un monde fait de 0 et de 1, binaire, déterministe. J'aime pas trop la guerre, surtout quand elle est trop proche de moi. Mais elle a au moins la vertu de clarifier certaines choses. Désormais, le manège des usines à trolls russes est évincé. La Russie a financé et soutenu Donald Trump et son orchestre, une brillante opération de déstabilisation de l'Empire américain. Poutine a chié dans les bottes de l'oncle Sam, pas étonnant que celui-ci mette le paquet pour aider les Ukrainiens. Que de chemin parcouru depuis le prêt accordé à la Russie par Clinton pour mener la première guerre de Tchétchénie. Et dans cette guerre, il y a une entreprise dont le nom est en soi une promesse, Clearview. Les Ukrainiens utilisent les services de cette boîte américaine de reconnaissance faciale pour identifier les prisonniers et cadavres ennemis et prévenir amicalement les familles du statut de lâcheur de leur chair. Une bonne guerre, secondée par une boîte nommée Clearview, de la technologie de pointe, voilà qui devrait satisfaire mes envies de certitude. D'ailleurs, une étude sur la reconnaissance faciale indique que certaines méthodes inspirées du réseau de neurones à convolution fournissent des résultats prometteurs, même dans les cas de visages gravement décomposés. Désormais, si vous voulez menacer quelqu'un, dites « Quand j'en aurai fini avec toi, même le réseau de neurones à convolution de ta mère ne pourra pas te reconnaître. » C'est une bonne nouvelle pour les gilets jaunes, ils resteront identifiables quand le festival du headshot au LDB reprendra après la réélection de Macron. Pourtant, d'autres sources affirment que la reconnaissance faciale ne marche bien qu'avec des photos de haute qualité et sur des hommes blancs et plutôt âgés. Mais en Belgique, deux flics amateurs de blagues ont illégalement utilisé les services de Clearview dans 78 affaires pour un résultat nul. Donc, retour à la case départ du doute, Clearview n'a l'air de fonctionner que sur les hommes blancs plutôt âgés et non belges, ça limite vachement le périmètre d'utilisation. Ou alors le problème est ailleurs, hein, qu'est-ce que j'en sais? Je crois que la reconnaissance faciale, c'est surtout commercialement que ça ne marche pas. IBM, Microsoft et Amazon ont abandonné la vente de ces technos aux polices, il y a 2 ans. Chez nous, ça a été écarté pour la sécurité des JO à Paris, faute d'expérimentation menée en temps et en heure. Même Facebook n'en veut plus dans Meta. Et si même Facebook écarte ce truc, c'est que le premier risque de cette technologie n'est pas qu'elle fait reculer la vie privée du cheptel, mais qu'elle fait reculer le profit. Ça, j'en suis certain.
C'était donc la chronique de Luc, la pituite de Luc sur la reconnaissance faciale. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. « En début d'émission, donc, ma collègue Isabella a consacré sa chronique aux journées du logiciel libre de Lyon, qui donc se tiendront les 2 et 3 avril 2022. C'est un des événements importants autour du logiciel libre et c'est le retour après 2 ans d'absence. L'April y tiendra bien entendu un stand et vous pourrez également y entendre une conférence justement de ma collègue Isabella, promouvoir le libre à la radio, je vous laisse deviner le thème. Il y aura ainsi également une conférence sur le logiciel bénévolat libre pour la gestion du bénévolat valorisé, animée à la fois par Isabelle Lavani et Laurent Costi, qui est un administrateur de l'April. Et le dimanche, il y aura une table ronde se défendre dans le monde numérique à laquelle participeront 2 bénévoles de l'April. Et pour rappel, un concert de Captain le samedi à 17h. Captain, qui est un artiste libriste et également informaticien sous le nom d'artiste de Clément Oudot. Le site des JDLL, c'est jdll.org. Un concert pour les 10 ans de la journée de création musicale Zik Libre en Bible, c'est-à-dire la musique libre dans les bibliothèques. Donc c'est des créations partagées sous licence libre, ça se passera à l'Escapade, donc l'espace logophique à Passé. Vous trouverez les informations sur le site ziklibreenbible.fr ou sur le site libreavoue.org sur lequel il y a les références. À Paris ce samedi 2 avril, comme chaque premier samedi du mois de 14h à 18h, des bénévoles passionnés de logiciels libres se retrouvent au carrefour numérique de la Cité des sciences et de l'industrie pour une fête d'installation de distribution libre ainsi que des ateliers et des conférences. Entrée libre et gratuite, le site premier-samedi.org. La Fondation pour le logiciel libre a remis ce week-end ses prix du logiciel libre qui sont décernés chaque année à des personnes ou groupes qui ont apporté une contribution significative à la cause de la liberté du logiciel. 3 lauréats cette année. Paul Egert, qui a contribué à plusieurs projets, à plusieurs logiciels libres du projet GNU. GNU, qui est un projet fondateur du logiciel libre. Un prix également a été remis au projet Secure Repairs, une association de professionnels travaillant dans l'industrie de la sécurité informatique et qui ont pour cause de soutenir le droit de réparer les appareils et les logiciels. Et enfin, Protésilaos Stavrou, qui en quelques années est devenu un pilier de la communauté du logiciel libre GNU Emacs grâce à ses articles de blog, ses diffusions en direct, ses conférences et ses contributions au code. GNU Emacs est un éditeur de texte extrêmement personnalisable, extensible et peut faire à peu près tout ce que vous voulez, y compris des choses qui n'ont rien à voir avec un éditeur de texte classique, comme gérer ses courriels, naviguer sur internet, lire des documents PDF, jouer à des jeux. J'utilise intensivement GNU Emacs, donc toutes mes félicitations à Protésilaos Stavrou et également à Paul Egert et à Secure Repairs. Et je vous invite pour finir à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels ou la culture libre près de chez vous, et notamment les événements qui se organisent dans le cadre de notre initiative Le Libre en Fête. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Avani, Stéphane Parunakian, Gilles Lehoux, François Bessaguet, Luc, aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Cette émission est rendue possible grâce à une équipe en or et notamment pour la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie, Daniel Girondon, Langue 1, Quentin Gibaud, bénévole à l'April et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Vous retrouverez sur le site web libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. Vous pouvez commenter l'émission, donner votre avis sur le contenu, faire des retours pour nous améliorer ou encore des suggestions et même mettre une note sur 5 étoiles si vous le souhaitez. Il est important pour nous d'avoir des retours car contrairement par exemple à une conférence, nous n'avons pas un public en face de nous qui peut réagir. Et cela nous ferait chaud au cœur de recevoir des témoignages d'amour de celles et ceux qui nous écoutent. Donc toutes vos remarques et questions sont les bienvenues par courriel à l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé ces émissions, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Rendez-vous mardi 5 avril 2022 à 15h30 ou en podcast, où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Notre sujet principal, je ne le connais pas aujourd'hui, nous vous verrons bien la semaine prochaine. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve en direct mardi 5 avril. D'ici là, portez-vous bien.